Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
Il y a presque 20 ans, je voyageais en Australie, ce pays du bout du monde, pour fouler sa terre ocre et surtout me rendre au pied d'Uluru, la montagne sacrée des aborigènes, le nombril du monde. J'étais fascinée par les peintures spirituelles des aborigènes, les points qui les composent. Fascinée aussi par le temps du rêve. J'ai traversé Alice Springs, j'ai vu la ségrégation, abjecte. À Darwin, j'ai rencontré une communauté. Mais la passante que j'étais ne pouvait ni comprendre, ni entrer en connexion, sans code et surtout par manque de temps. Je suis restée au bord de la route. Le livre de Vanessa Escalante, « Ma peau d'un autre monde », a réveillé ses souvenirs. Son écriture organique m'a traversée dans un souffle, intense, intime. Elle-même s'est laissée surprendre par cette terre, ce peuple, emportée par une passion amoureuse, mais aussi en se révélant femme, puissante. Son voyage initiatique a duré 4 ans, entre allers et retours incessants. Femme engagée pour la cause aborigène, elle a su prendre les armes, sa caméra et son stylo, et témoigner de façon concrète pour la protection de cette terre menacée et de son peuple gardien de l'origine du monde. Entrez avec moi dans son univers, jamais très loin du temps du rêve. Vanessa, on se retrouve aujourd'hui, donc j'ai ton livre entre les mains, il m'a vraiment bouleversée par rapport à ton histoire, l'histoire de l'Australie, l'histoire d'amour aussi que tu vis au travers de ces pages, l'amour aussi de manière, on va dire, inconditionnelle que tu as vis-à-vis du peuple aborigène et puis de la vie en général. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment ça se fait que tu en es venue à venir en Australie et à passer plus de 10 ans de ta vie à faire des allers-retours entre la France et l'Australie ?
Alors c'est vrai que ça, c'est toujours une question que je me pose en permanence, pourquoi l'Australie, puisque rien ne m'avait prédestiné à ce pays, absolument rien. Et j'ai 1 million de réponses en fait, parce qu'à force de chercher, ben on se trouve des réponses. Et ça, il y en a à tous les niveaux, il y a au niveau familial, il y a du transgénérationnel je pense, par rapport à la question des terres. La dépossession de ce peuple. Donc dans mes mémoires familiales, il y a des ancêtres qui ont perdu leur terre, et puis il y a des ancêtres colons aussi. Mes grands-parents adoptifs qui étaient pieds noirs d'Algérie et qui ont perdu à 40 ans, à mon âge, à 42, 40 ans, leur terre, leur maison, et qui ont dû partir pour un pays qu'ils ne connaissaient pas, la France. Sur un autre plan, sur le plan... émotionnel, j'ai été très touchée en regardant un film par les enlèvements d'enfants métis. Le film s'appelait The Rabbit Proof Fence, Le chemin de la liberté. Je l'ai vu en 2005 et quand j'ai découvert cette histoire, j'ai voulu comprendre pourquoi on enlevait des enfants. Je découvrais cet univers, ce monde. Et la question des enfants volés, ça me prenait aux tripes, mais je peux pas. Maintenant, je commence à comprendre un peu pourquoi, parce que moi-même, je n'ai pas d'enfants et c'est une question qui me turlupine. Donc voilà, je dois avoir des mémoires. Je pense, si on croit à la réincarnation, je dois avoir des mémoires vis-à-vis de l'enfance volée. Et puis, donc, pour aller en Australie et rencontrer ce peuple aborigène, j'ai écrit un premier documentaire. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille avec un objectif, pas comme ça en touriste. Et d'abord aussi pour comprendre l'histoire, j'ai fait des recherches, j'ai écrit ce documentaire pour y aller avec quelques éléments historiques. Et il se trouve que ce documentaire a été acheté très rapidement par France 5 et qu'un producteur m'a payé le voyage pour faire des repérages. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'à cette époque, c'était vraiment fantastique parce que ça n'existe pas, ça. c'est exceptionnel. Donc, je ne me rendais pas compte de cette chance à l'époque. Et je me suis retrouvée dans ce pays en 2005 et j'ai eu le tournis, en fait. C'était tellement immense, la lumière était tellement forte. Il y avait un horizon si vaste. J'ai été surangoissée, j'ai voulu rentrer chez moi, je voulais plus y retourner, j'ai pas du tout aimé cette terre-là, voilà, la première fois. Et finalement, elle n'a fait que me rappeler. Mais je peux pas expliquer pourquoi, il y a une espèce de force instinctive qui me disait toujours d'y retourner. Il fallait que j'y retourne. Je pense qu'il y a un magnétisme là-bas et que j'avais des choses à comprendre et à ancrer, quoi. Voilà, moi je suis une questeuse, hein. Je suis en quête toujours de quelque chose. Et même si je n'ai pas la réponse, il y a toujours un pourquoi qui me guide. Et voilà, la route me guide. Et tous les matins, je me réveille avec de nouvelles questions, de nouvelles histoires que j'ai envie de raconter. Et je sais que si j'ai envie de les raconter, c'est parce que j'ai un truc à comprendre moi-même.
Quand tu es retournée, alors du coup, tu t'es sentie appelée, mais je suppose qu'il y avait une lutte au fond de toi, parce que tu avais cette peur. Si tu avais été surangoissée par les paysages, tout ça, tu es allée en confiance quand même?
Il s'est passé entre 2005, alors j'ai fait le premier voyage de repérage en 2005, je suis retournée sur le tournage en 2007, et ensuite il s'est passé 4 ans, voilà, avant d'y retourner, que l'Australie me rappelle. C'était en 2011, quand j'ai vraiment mis les pieds là-bas avec ma propre histoire à raconter, et là j'avais plus peur, j'avais plus peur. Là c'était vraiment une force instinctive qui me disait « va rencontrer ces femmes dans le désert ». Elles sont incroyables, elles se battent pour la terre et il fallait que je les rencontre. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Voilà, c'était plus fort que moi. J'avais ma petite caméra, j'ai économisé, j'ai payé même le voyage à mon amie parce qu'il fallait je ne parlais pas anglais, donc il fallait que quelqu'un qui parle bien anglais m'aide, me soutienne. Et en plus, elle était métisse, donc je savais bien qu'arriver dans une communauté aborigène avec une caméra... Et ma peau claire, ça, par rapport à l'histoire, ça allait pas être simple. Donc mon amie a vraiment... J'avais eu bon feeling. Elle a vraiment, vraiment permis d'ouvrir des portes et de mettre en confiance ces femmes pour me parler et me répondre.
Tu racontes dans ton livre qu'il y a vraiment une séparation de la spiritualité entre les femmes et les hommes. Chacun respecte la spiritualité l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Comment tu peux nous expliquer le rôle des femmes et le rôle des hommes dans la spiritualité aborigène?
J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer parce que avec les aborigènes, en fait, même après 40 ans, on apprend tout le temps. On croit qu'on comprend et en fait on s'aperçoit qu'on comprend encore moins que rien. Parce que c'est une culture qui se réactualise en permanence. Et le peu que je sais, c'est que les femmes ont des terres sacrées sur lesquelles elles font leurs cérémonies. Et les hommes ont des terres, c'est des terres initiatiques, hein, où elles deviennent des femmes. Et les hommes ont des terres initiatiques où ils deviennent des hommes. Donc sur ces terres, les femmes et les hommes ne marchent pas sur les terres des uns et des autres, parce que c'est secret, c'est sacré. Et voilà, je pense qu'il y a un ordre cosmique, une loi universelle, une harmonie à respecter. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont des terres où ils font aussi des cérémonies en commun. Voilà. Ce qu'on m'a dit, c'est que les hommes ont des savoirs, ont les savoirs universels et de la création qui se transmettent durant les cérémonies. Et les femmes, elles, sont les gardiennes de la terre. Donc ce sont elles qui parlent au nom de la terre quand il faut défendre, faire une campagne pour protéger une terre ou un site sacré. Ce sont elles qui s'expriment parce que ce sont les gardiennes.
Est-ce que tu peux nous parler du temps des rêves? Est-ce que le rêve a toujours été important dans ta vie? Est-ce que pour toi, c'est quand on rêve ou quand on dort, on part dans d'autres dimensions?
Oui, oui. Alors moi, le rêve, c'est depuis que je suis née, j'exagère, mais depuis que je suis consciente qu'on rêve, j'écris mes rêves, je les analyse, j'essaye de comprendre la symbolique. Enfin, je sais, avant, je pensais comme tout le monde que le rêve était juste le cerveau qui fonctionnait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres croyances. Hein. Je suis sûre que l'on voyage pendant que l'on dort et qu'on traverse d'autres dimensions, qu'on va chercher des informations et qu'on ramène ces informations et ces outils pour réactualiser notre présent et faire des choix. Et donc je pense qu'effectivement le monde est multidimensionnel, quoi. Donc on a un corps physique, mais on a aussi d'autres corps subtils qui voyagent la nuit. Et en plus c'est marrant parce que, donc oui, j'ai toujours été très connectée à la sphère du rêve. Et j'ai eu deux expériences assez étonnantes. Bon, déjà, à force de travailler et de me souvenir de mes rêves, de les noter, j'ai commencé à avoir déjà à agir dans mes rêves. Donc à changer des choses dans mes rêves volontairement pour pouvoir changer le futur. Bon, ça, j'ai appris à le faire, ça s'est fait un peu naturellement. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, et c'était incroyable, je me suis réveillée en fait, avant que mon âme réintègre mon corps. Alors, c'était hallucinant. J'ai jamais vécu un truc pareil. J'étais un esprit et je me suis rendu compte, en fait, que je me guidais grâce aux planètes et à la Lune pour rejoindre la Terre. Et j'étais complètement hystérique. Ah, mais c'est comme ça qu'on se déplace dans l'univers. Enfin, il y a une espèce de prise de conscience. Et je suis rentrée dans mon corps et j'ai ouvert les yeux. Et j'avais complètement conscience que je venais d'arriver, en fait. C'était très bizarre. J'ai jamais vécu un truc pareil.
Et la sensation, elle était énorme, elle devait être forte, douloureuse ou pas la sensation de réintégrer?
Non, ça, j'ai pas senti. Ça m'est arrivé une fois avant où je me suis rentrée ça, très, mal, d'une façon très violente, et j'ai entendu un énorme bruit. Bon, ça a fait un espèce de bruit dans ma tête. Mais ça, c'était il y a super longtemps. Mais cette rentrée-là, non, je l'ai pas sentie du tout. J'avais pas de sensation physique. J'avais juste ma conscience qui prenait conscience qu'elle était en train de rentrer sur Terre. Et d'un coup, j'ai ouvert les yeux, en fait. Et je suis restée pendant bien 5 bonnes minutes à intégrer ce qui venait de se passer. Que je m'étais réveillée avant d'ouvrir les yeux. C'était très étonnant, ouais.
La spiritualité a toujours fait partie de ta vie. Quelque part, quand tu es allée en Australie, c'est comme si tu avais une continuité de tout le cheminement que tu as fait depuis toujours à l'intérieur de toi.
Bah maintenant, je vois qu'il y a une logique, mais c'est vrai que ça n'a jamais été fait de façon réfléchie, quoi. En fait, moi, je n'arrive pas à réfléchir. J'ai une intention, j'ai d'un coup une envie. Il faut absolument que je fasse ça. J'ai un instinct, je fais le truc et après, je comprends pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est au fur et à mesure que je me disais, ah ouais, c'est vrai que le rêve, c'est un truc qui, depuis l'enfance, me parle et je vais connecter les peuples du rêve. Et c'est logique, mais il n'y a rien de prémédité. La spiritualité, j'y pensais pas. En fait, à l'époque, quand j'étais petite, j'étais très connectée à la sphère des morts, et je croyais que c'était ça la spiritualité. Donc pendant longtemps, j'ai énormément souffert de ressentir des forces invisibles autour de moi, parce qu'elles étaient très lourdes, et donc j'avais peur de la spiritualité, mais en fait j'ai appris que c'était autre chose la spiritualité, que c'était... En fait, il y a simplement plusieurs dimensions, juste il fallait que je connaisse des sphères plus élevées, quoi. Et j'étais toujours connectée à des sphères très très lourdes. Mais ça a mis 40 ans avant que je comprenne ça. Vraiment, hein. J'étais tellement effrayée par l'invisible que je cherchais pas trop. Et finalement, c'est les aborigènes qui, quelque part, m'ont fait prendre conscience. Mais c'est pas des gens qui vont parler spiritualité, hein. C'est des gens qui vivent les choses. Donc, simplement, par l'exemple, en étant ce qu'ils sont, j'ai appris, voilà. Mais ils m'ont pas dit ceci ou cela, ils parlent pas de spiritualité. Même, je crois qu'ils trouvent ça complètement... ésotérique, et enfin notre façon, nous, d'en parler, c'est pas du tout leur vision du monde, pas du tout.
Non, ils sont dans la terre. Ce que tu dis aussi à la fin de ton livre, c'est qu'ils t'ont appris à t'ancrer, à rester les pieds sur terre et à agir.
Oui, ils sont dans la terre et en même temps le mouvement de la vie, quoi. Eux, c'est presque mettre en action cette énergie autour de nous. Ils parlent de cette énergie autour de nous. Chacun a un mot pour ça. Nous, les Indiens appellent ça le prana, un des médecins aborigènes, un des chamans aborigènes avec qui j'ai voyagé appelle ça le mongan. C'est une force qui est tout autour de nous. Alors, moi encore, je mélange les choses. Hein. Je ne peux pas dire que ce soit la force de la vie, parce que c'est compliqué, moi-même je m'y perds. Bon, enfin, il y a quelque chose autour de nous d'invisible, une énergie qu'on peut mettre à notre profit en action pour manifester les choses, voilà. Donc il faut être ancré sur Terre et dans l'action et le mouvement pour faire circuler cette énergie de vie. Et les aborigènes, c'est ce qu'ils font dans les danses et les chants. Ils mettent la vie en mouvement en permanence et elle n'est pas figée. Et même leurs histoires du temps du rêve se réactualisent en permanence. Il n'y a pas une histoire qui est définie comme ça. Elle est comme ça pour un tel, elle va être racontée d'une autre manière pour un autre clan, enfin... Et c'est normal, la sphère de l'inconscient et du rêve, elle est pas figée, elle n'est pas physique, donc ça n'a pas de forme.
C'est pour ça qu'ils sont nomades, qu'ils ont besoin aussi de se déplacer sur tout le territoire. Tout le territoire appartient au temps du rêve en Australie.
Ben en fait, tout ce qui existe dans la matière et sur Terre est issu d'une forme rêvée, est issu d'un rêve, d'une image, en fait, dans l'espace-temps. Donc l'ancêtre ou le dieu, appelle ça comme tu veux... la source universelle a pensé, a rêvé le monde, et il s'est manifesté en descendant à travers des multiples dimensions. Et chaque image pensée depuis cette source, rêvée, chaque rêve a créé une manifestation. Donc tout ce qui est autour de toi, tout ce qui existe, est issu d'un rêve, de la source. Ce qui veut dire que la vie a préexisté avant la Terre. Il y a une source créative, une vibration pour certains, une image pour eux, qui est à l'origine du monde.
C'est pour ça aussi que c'est compliqué pour eux de se retrouver enfermés dans des réserves. Ça leur coupe dans leur vision du rêve, ça leur coupe dans leur énergie primaire.
En fait, déjà, quand tu parlais de nomadisme, bon, il y a beaucoup en ce moment de contestations vis-à-vis de ça, parce que originellement, il y avait entre 400 et 700 clans aborigènes avec des langues complètement différentes, des cultures différentes, bien que toutes... régie par cette cosmogonie du temps du rêve. Donc, certains se disent avoir été sédentaires, et d'ailleurs, il y a des preuves archéologiques aujourd'hui qui disent que dans certains états, on a retrouvé des constructions de maisons, etc. etc. Bon. Mais donc, certains se disent qu'ils n'étaient pas nomades, et d'autres bon, l'ont été, mais enfin, c'est plus trop ça actuellement. C'est sûr que ce sont des peuples qui ont le mouvement en eux et qui se déplacent parce qu'ils sont surtout connectés à une famille élargie, une famille étendue. Pour les nations et les tribus qui restent encore traditionnelles, elles sont encore dans le système qu'on appelle le système familial, le nom de peau. Donc en fait, ils sont tous de la même famille, ils ont tous des liens de parenté par rapport à une organisation familiale qui est régie par des noms de peau. Il y a eu, bon, je vais la faire simple, hein. il y a une majorité de clans qui vivent sous ce schéma. Il y a 8 noms de peau, donc qui se redistribuent de façon cyclique à travers les naissances. Donc moi, je vais naître avec un nom de peau, et du coup, par exemple, Nangala, et tous les autres noms de peau vont être représenter une autre position familiale pour moi. Donc moi, je vais être la fille ou la nièce des Nampin. Je vais être la sœur d'un autre nom de peau. Je vais être, donc tous mes oncles et tantes vont porter le nom Nampin, Jimpa et Jampin Jimpa. Tous mes frères et sœurs vont porter le nom de peau, un autre nom. Je n'ai pas les noms en tête. Hein. Toutes mes mères et tous mes pères vont avoir aussi un nom de peau. Et en fait, ça tourne. Quand on arrive au bout de ce cycle de distribution de ces 8 noms de peau, hop, on repart à zéro. Ce qui fait que je peux avoir des frères et sœurs qui ont 90 ans. Et en fait, ce système unit une majorité de clans à travers l'Australie. Et ça permet, en fait, pendant les déplacements et pendant les cérémonies, de savoir quelle position sociale on a vis-à-vis de qui. Donc moi, je vais arriver, je viens de l'Est, je vais arriver dans l'Ouest, je suis Nangala, je vais me présenter, mon nom de peau, c'est ça. Donc, ben moi, je suis ta belle-mère, ben moi, je suis ta sœur, ben moi, je suis ta grand-mère. Du coup, je sais comment me positionner pendant les cérémonies, suivant les places où je dois être. Si je suis une fille, ben, je vais aller avec les filles à droite. Je ne vais pas m'approcher des cousins et des frères parce qu'eux, il y a une restriction. Il y a des restrictions, on ne peut pas s'adresser à ses frères, à ses cousins directement. Il y a plein de protocoles et de codes qui sont très, très, très stricts.
C'est uniquement pendant les cérémonies que tu dois suivre ces protocoles ou c'est dans la vie de tous les jours ?
La vie de tous les jours. Bon, en fait, ce système permet d'avoir une famille étendue à travers toute l'Australie et de jamais être seule. Et tu es toujours aussi dans la responsabilité vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment la culture où tu dois être présent pour l'autre. Tu peux pas dire non. Voilà. Si on te demande un truc, n'importe où que je sois, madame, là, c'est ma grand-mère, elle va me demander un truc, hein, j'ai pas le droit de lui dire non, quoi. C'est position familiale, c'est ma grand-mère. Lui, il a ce nom de peau, hop, c'est un frère direct, je ne le regarde pas dans les yeux, je lui parle pas, je vais passer par quelqu'un d'autre si j'ai un truc à lui dire. Et c'est comme ça, voilà. Dans les tribus qui sont encore traditionnelles aujourd'hui et qui vraiment sont strictes. Mais ça se perd quand même. Ça se perd avec la jeunesse qui regarde la télévision. Il y a Netflix et compagnie, tu vois. Ils n'ont plus envie de suivre ces règles qui sont très, très strictes. Mais chez les aborigènes, il y a aussi cette culture de la négociation. Donc même quand les anciens vont te dire non, 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 ça va discuter, on va négocier, on va négocier, on va négocier. Puis à un moment, quand le moment sera propice, paf, tout le monde va lâcher prise et ok, tu vas pouvoir faire ce que tu as demandé.
C'est pas une dictature. Il y a toujours possibilité de parler avec eux. Mais l'avantage, on va dire, c'est qu'effectivement, où que tu sois, tu peux avoir gîte couvert, aider les gens. Enfin, il y a comme une espèce de solidarité, de sororité, de fraternité entre tous, quoi.
Ouais, c'est plus de l'ordre vraiment du devoir, quoi. Ça peut être des fois difficile quand même. Parce qu'ils ont vraiment... Pour dire non, c'est compliqué quand on demande un truc. Et tout le monde a besoin, comme ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Dans les communautés, c'est extrêmement pauvre. Donc les familles sont très, très dans le besoin, dans la survie. Donc déjà, c'est important pour ça. Et aussi, rien n'appartient à... Tu ne peux pas posséder quelque chose matériellement. Tout appartient à tout le monde. Donc tu viens d'avoir ton nouvel ordinateur, c'est terminé quoi. Dans une heure, il a disparu. Parce que tu ne peux pas posséder, tout doit être pour la communauté. Donc il y a des moments difficiles pour les nouvelles générations, tu vois. Ils sont entre les deux. Et même pour toi qui arrives en tant qu'occidental, toi tu t'accroches à ton téléphone, à ton matériel, et tu peux pas faire ça. Voilà, tu dois adopter ces codes-là et tu dois lâcher aussi prise sur... Voilà, quelqu'un te demande de l'argent parce qu'il a besoin de donner à manger ou d'acheter des cigarettes, et tu fais, hein. Tu peux pas dire non.
Comment ça se passe pour les métis, ces enfants qui ont été volés? Comment on les reçoit dans des communautés plutôt traditionnelles, aborigènes?
Là, c'est une vraie question très... c'est difficile parce qu'ils sont pas vraiment reconnus et admis. J'ai beaucoup d'exemples d'histoires très difficile sur des descendants comme ça, des enfants de la génération volée qui sont retournés et qui ont été rejetés en fait, même maltraités, parce qu'ils sont considérés comme des blancs quoi, voilà. Hein, moi j'ai entendu un aborigène traditionnel me dire ils sont impurs, donc voilà, ça va à ce niveau-là. Alors je peux pas parler au nom de tout le monde, hein. Je dis ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est compliqué pour eux, ils ont du mal à s'inscrire dans la société blanche, parce qu'ils ont toujours en quête, ils sont toujours en quête de cette identité, mais du coup ça en fait des artistes, des activistes aujourd'hui qui font des choses extraordinaires en fait pour faire avancer la société. Mais voilà, la place du milieu, c'est souvent celle qui fait avancer les choses, mais elle n'est pas facile.
Dans ton livre, c'est une belle histoire d'amour, enfin c'est même plus qu'une histoire d'amour que tu as vécue avec un de ces enfants volés, Darren. Est-ce que tu veux bien en parler?
C'est vrai que, je vais même dire que c'était la plus importante, parce que la plus transformatrice, la plus intense, parce qu'elle a laissé des souvenirs incroyables de 3 ans d'aventure et de passion entre la France et l'Australie, avec une caméra, avoir ce rêve de faire de transmettre ses voix du lointain à l'autre bout du monde, c'était un peu idéalisé et un peu naïf de notre part, mais on a rêvé tellement loin, on a vraiment rêvé fort, mais en même temps, le fait que cette personne soit issue des générations volées, qu'il n'a pas connu sa mère et qu'il a été maltraité par sa famille d'adoption, ont rendu l'histoire aussi douloureuse, parce que voilà quoi, enfin, quand l'autre souffre, tu souffres aussi. Et puis on a fait face aussi à des incompréhensions culturelles énormes, mais il était aborigène dans ses gènes, même s'il a grandi dans une famille australienne, c'est 60 000 ans d'héritage et de mémoire qu'il avait en lui, donc il faisait pas semblant. Tout son comportement était aborigène, toute sa façon de penser, de voir le monde était aborigène. Moi je me suis pris en pleine face en fait mes futilités du monde occidental. Tu vois, quand j'étais toujours là à m'accrocher à mes histoires d'argent, parce que j'avais plus d'argent et que lui, il en avait rien à foutre de l'argent. Et quelque part, c'est beau. Mais en même temps, moi, je voulais pas mourir de faim, tu vois. Et du coup, ça revenait toujours sur le tapis, les disputes par rapport au billet de 20 dollars qu'il vient de donner à un aborigène qui lui a demandé un billet de 20 dollars. Ok, moi aussi, j'ai donné de l'argent, mais... Et à un moment, lui, c'était mon argent. À un moment donné, il donnait mon argent, et sans me demander. Donc, je ne comprenais pas à un moment pourquoi ils se sacrifiaient. Ils nous sacrifiaient pour des inconnus. Et bon, ben voilà, c'est après que j'ai compris que c'est une culture où tu peux pas dire non. Et puis bon, lui, c'est dans la peau, hein, je veux dire. Il en a rien à foutre du fric du colon. Et puis, il avait aussi toujours cette sensation que je l'utilisais, que mon film était là pour l'utiliser pour moi. Et je comprends plus qu'il ait cette croyance-là, vu que les Australiens, de toute façon, maltraitent toujours... les peuples aborigènes, c'est tout à fait légitime. Et puis, de toute façon, la domination, c'est quelque chose d'international, hein, à tous les niveaux, même dans le couple. Donc, voilà. Lui, il était absolument persuadé qu'une fois que j'aurais fini mon film, je le lâcherais. Donc, il avait toujours cette frousse en lui d'abandon. Et ce qu'il faisait toujours des actes manqués qui me rendaient dingue et que je prenais moi contre moi. Donc voilà. Mais bon, ça nous a fait grandir hein, des deux côtés. Hein.
C'était vraiment une histoire passionnelle. On se plaît à rêver avec toi parce que quand on voit ce qui s'est passé, enfin, il y a un passage que j'adore quand il t'emmène dans cet endroit secret, dans cette grotte que tu as vécue, c'est quand même initiatique.
Bon, en fait, l'initiation, elle a eu lieu, comme je le dis au début du livre, c'est plusieurs histoires que j'ai rassemblées dans un récit. Donc il y a des moments où j'ai pris des vérités que j'ai vécues autrement. Et ailleurs. Donc, Darren, ça a été initiatique à tous les niveaux. La grotte, c'est comment dire, une métaphore. Parce qu'il m'a permis d'aller loin, loin à l'intérieur de moi, quoi. Mais très, très profond. Hein. J'ai mis 10 ans à sortir de cette histoire. Bah, en fait, tout ce que je voyais en lui, c'est ce que je voyais pas en moi, quoi. Tout ce que je reprochais à Darren, c'était mes propres incapacités. Donc, ça a été... Quand ça a été terminé, bah, j'ai dû faire face à ça. Là, ça a été la grotte, là. Ouais, là, je suis allée loin dans ma grotte, c'est clair.
Tu parles de grotte, mais tu parles aussi de baleines. Et les baleines... Alors là, je vais parler un peu de moi, mais j'ai fait une communication animale un jour avec des baleines. Et, et en fait, la baleine m'a dit « Les hommes, vous devez descendre dans vos profondeurs et je viendrai danser avec vous. » Donc, je trouve que la grotte et la baleine, c'est vraiment associé au niveau symbolique. T'as réussi à vraiment rentrer dans tes profondeurs et en ressortir plus forte?
Alors, plus forte, c'est sûr. Maintenant, c'est pas guéri de la souffrance. De toute façon, je pense pas qu'on en... Enfin, la souffrance, on est là pour l'expérimenter aussi. Mais je gère mieux, si tu veux, certaines choses. Et, bah, par exemple, d'être dans un appartement. Tu vois, Darren m'a fait prendre conscience que j'étais incapable d'être dans le matériel. Moi, j'étais que dans le rêve, tu vois. Avoir une voiture, un appartement, vivre un quotidien, bah, c'était impossible pour moi. Et lui, il était à fond dans ça. Il était hyper ancré dans sa réalité.
C'est marrant parce que j'aurais dit que c'était le contraire, parce qu'il a l'air quand même d'être hyper nomade, d'aller là où le vent le mène, mais sans avoir d'attache, alors que c'est le contraire.
Oui, ouais, complètement. Ouais. Il est nomade, mais très, très ancré sur sa terre, avec son entourage amical. Et puis, en fait, c'est ce qui allait se révéler à lui. Parce qu'en 2017, il a réussi à avoir, après 10 ans à la rue, il a réussi à avoir une maison. Et depuis, il est devenu accumulateur compulsif. Donc, c'est un truc complètement fou, en fait. Et en fait, je pense qu'on a les deux. Lui, il m'a ramené vers quelque chose de simple, l'entourage, le quotidien. Puis il est tous les jours dans son petit quotidien, tu vois, à ramasser des choses et à les revendre. Et moi, ça, c'est un truc. Moi, il me fallait des grandes épopées. Je ne pouvais pas être dans mon pays d'origine et dans ma région. J'étais en permanence en fuite, loin, toujours loin, à aller chercher dans mes rêves la vie. Et alors que lui, il me ramenait toujours à des trucs, mais super simples. Être en voiture, tourner toute la journée, ramasser des objets dans la rue pour les revendre, tu vois. Et puis, oui, nomade en Australie, mais dans son quotidien. Et moi, j'arrivais pas à m'ancrer, ouais. Moi, je vivais dans mes rêves en permanence. Et la baleine, c'est vraiment un rêve que j'ai reçu, quoi. Ouais, je l'ai vraiment vu, cette baleine. Dans une sphère, hein, dans une dimension qui est la mienne, hein, mais elle existe. Et c'est une belle métaphore, en effet. Ouais.
Donc, tu as vécu avec lui cette vie de nomade. Tu produisais ton film, tu le réalisais plutôt, ton film, et tu le suivais dans ses pérégrinations et il t'emmenait, parce qu'apparemment, il a l'air d'avoir des amis partout, dans toute l'Australie. Donc, partout où qu'il aille, il avait des points de chute.
Oui, bah ça, c'est aussi le monde, la façon d'être du monde aborigène. Ils sont une grande toile familiale et donc ils ont un réseau énorme. Enfin, d'est en ouest, sur un immense continent, leur famille, ouais, comme je t'ai dit, ils ont une famille étendue et Darren, il a reproduit avec, dans l'activisme, en fait, cette façon de vivre qui est très aborigène. Mais il est comme ça, naturellement. Donc oui, et puis son activisme l'a mené partout. Donc, parce qu'il y avait tout le temps des campagnes à faire... où il était invité à droite, à gauche, pour parler de son histoire. Et bon, puis voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement social aussi, donc qui parle énormément, qui parle avec ses tripes, donc il a énormément de réseaux, ouais. Et je sais pas qui c'était, lui ou moi, qui emmenait, mais enfin, c'était toujours moi qui disais « on va là », et lui, il connaissait tout le monde, voilà. Donc il venait, il me suivait, et puis il me trouvait le lieu où crêcher.
Ton livre, il fait nous évader aussi et partir loin. où ça en est à l'heure actuelle en Australie, toutes ces histoires de déchets radioactifs qu'on veut mettre au fin fond du désert sans tenir compte du peuple. Je sais qu'il y a, tu parles du procès de Mukati dans ton documentaire, où ça en est maintenant?
Alors, les anciens qui se sont battus pour empêcher l'enfouissement de déchets à Mukati ont gagné en 2014 le procès. C'était une belle victoire. Mais le gouvernement, de toute façon, veut enfouir ces déchets. Et il a déplacé le problème dans le sud, sur de nouvelles terres. Il a, pendant 7 ans encore, des communautés soutenues par la victoire de ceux du nord. On fait campagne, on milité. Et puis bon, il y a eu des... Je sais qu'à un moment donné, le gouvernement a choisi trois sites d'enfouissement et ils ont mis en place un système de vote où ils ont exclu les propriétaires traditionnels. Donc en fait, c'était des votes truqués et ils ont donc tous les gens, toutes les communautés qui étaient pour l'enfouissement ont choisi un lieu, ils l'ont déterminé. Et aujourd'hui, l'annonce n'a pas été encore faite. Le projet n'est pas encore en construction, mais le lieu pour l'enfouissement est décidé. Voilà. J'en suis là. En 2020, il n'y a pas encore d'annonce du gouvernement à ce niveau-là.
Ils sont où ces déchets-là?
Alors, c'est des déchets de l'industrie médicale australienne et une grosse partie des déchets qui sont restés, qui ont été retraités en France à La Hague. Et qui sont restés 20 ans à La Hague en attendant de retourner en Australie, sont revenus en 2015 ou 2016. Et en attendant, ils sont stockés, je crois, dans la banlieue de Sydney, un site qui s'appelle, où il y a un réacteur nucléaire qui s'appelle Lucas 8, si je me souviens bien. Donc en attendant, ils sont en stand-by dans ce site, en attendant que l'enfouissement se crée, quoi, se construise.
Tu parles des arbres sacrés, des arbres qui sont des ancêtres, et au milieu des arbres peut y avoir une rivière qui a été complètement contaminée. C'est ça aussi le désespoir du peuple aborigène.
Il y a un essor fulgurant de l'industrie minière sur tout le territoire, qui s'étend d'année en année. Les mines s'agrandissent, et puis ils ont besoin de beaucoup d'eau, énormément. Et il y a un bassin qui s'appelle le bassin artésien sous l'Australie, qui fait un tiers ou un quart du continent, qui se vide petit à petit parce que les mines... Enfin, c'est au centre du territoire, je ne sais plus quel est le complexe industriel, qui vide le bassin à raison de milliards de litres par jour, millions de litres, j'ai plus les chiffres. Vous pourrez regarder sur Google ce sujet-là. Mais en fait, c'est la seule source d'eau potable qui reste sous l'Australie et elle se vide à cause de l'industrie minière. Et je sais que les mines ne payent pas de taxes, en fait, sur l'exploitation de l'eau. Donc, en fait, il y a des aberrations. Ça semble tellement énorme que tu n'arrives pas à y croire, en fait. Et les aborigènes, enfin, beaucoup de ceux qui essayent de se battre contre l'industrie minière, en fait, ce sont des petites voix au niveau local qu'on n'entend jamais. Elles sont soutenues par des petites associations, elles sont à peine médiatisées parce que les médias sont détenus par un seul homme. Je pense que c'est encore Murdoch aujourd'hui, je ne suis plus trop l'actualité. Donc les journaux nationaux ne relayent pas les petites histoires locales. Et il y a aussi le problème de la fracture hydraulique, surtout dans le Kimberley en ce moment et dans l'ouest australien. Ils veulent aussi détourner les rivières pour l'industrie du coton. Il y a énormément de mobilisation dans le nord-ouest, justement pour protéger notamment une rivière. Mais il y en a partout, en fait. Partout, des petits combats. Enfin, des petits combats, c'est des énormes combats à mener, mais avec peu de moyens, quoi. Et c'est dur de voir ça. Enfin, franchement, j'ai encore de l'espoir, mais rien que d'en parler, ça fait mal au cœur, parce que l'eau, c'est la base de la vie. Et pour les certains peuples du Kimberley, c'est l'eau dans le corps de la femme, en fait, permet de guider par effet miroir les esprits enfants qui viennent du temps du rêve. Donc si on pollue l'eau et si on détruit toute la nappe, les nappes phréatiques, il n'y aura plus d'enfants qui vont s'incarner. Et ça, c'est horrible.
Ça paraît insoluble comme ça. À Canberra, au niveau de l'ambassade, les activistes sont toujours présents?
Oui, il y a toujours la représentation de la tante ambassade à Canberra, mais c'est surtout le réseau. Les aborigènes sont très connectés, et puis sur Internet. Donc s'il y a une réussite d'un procès dans le Nord, ben, tout le monde est au courant dans toute l'Australie. Donc y a, au niveau de la communication, c'est pas un problème. Et puis maintenant, avec le mouvement de donner des droits à la nature, je sais pas si tu as entendu parler de ce mouvement, Indecocide in Europe, tu connais ces initiatives citoyennes. Bon, en fait, aujourd'hui, y a un réseau de juristes internationaux qui sont en train de se battre pour faire passer en France et en Europe, de donner des droits aux écosystèmes et aux entités vivantes. En Australie, il y a eu déjà une rivière qui a reçu cette reconnaissance d'être d'entité vivante. Donc maintenant, il y a un réseau assez fort dans le Kimberley qui se bat pour faire la même chose, donner des droits à une rivière qui est menacée par l'industrie du coton, justement, Marturawa River. Et donc il y a une grosse mobilisation autour de ça, voilà, mais à l'échelle internationale ça se joue, hein. Il y a eu des rivières un peu partout dans le monde, ou des forêts, ou des petits écosystèmes qui ont reçu des droits, mais à l'échelle du monde ça ressemble à rien, mais ça commence à grossir, et il faut que ça prenne de l'ampleur, il faut que la planète soit reconnue comme une entité vivante, quoi, qu'elle ait des droits, qu'on puisse la défendre en justice. Donc bon, il y a de l'espoir, mais c'est que les prémices en ce moment. Il faut continuer à se battre et soutenir aussi ces peuples autochtones qui sont les premiers gardiens de la nature et qui ont gardé le lien avec elle et qui voient en la nature un frère, une sœur, une tante, une mère, un membre de la famille. On est des sociétés où on divise tout. Eux non, eux c'est tout fait partie de tout et on est tous reliés. Voilà, c'est ça qui doit changer dans nos consciences, c'est la compréhension que tout est interconnecté et qu'on fait partie de cet ensemble vivant.
Et à la fin de ton livre, tu dis aussi que tu sais que tu es connecté avec l'extérieur, que ton intérieur va refléter l'extérieur. Tu as vraiment eu cette conscience de ça au bout de ces 10 années passées entre aller-retour, entre le monde du rêve et le concret, que ce qui se passe à l'intérieur de toi va se refléter forcément à l'extérieur.
Bah ça, en fait, j'ai toujours eu de façon innée. Je pense que c'est un savoir que si on croit à la réincarnation, hein, c'est une connaissance que j'ai, voilà. Donc j'ai toujours, depuis que je suis enfant, réussi à manifester les choses par la pensée et l'intention et l'émotion que je mettais dans... Ça, je l'ai toujours compris et réalisé. Je sais comment manifester quelque chose. Et donc, les aborigènes, je pense que je me sens proche aussi parce qu'il y a ces connaissances-là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils ont ces capacités parce qu'il y a beaucoup de... Au niveau de l'identité, il y a une cassure au niveau spirituel. Mais en tout cas, ces peuples nous amènent à comprendre ça, quoi, dans la façon dont ils vivent. Ils vivent tellement dans le présent que les choses se manifestent. Ils ne sont pas dans la projection, ils savent que le temps est circulaire. Et quand on est dans la réception, eh ben, les choses viennent à nous. Et alors que nous, on est tout le temps dans le contrôle et on va faire ci, on va faire ça. Du coup, on ne laisse pas la magie se produire et la vie nous apporter les opportunités. Eux, ils sont tellement dans le présent pour des raisons qui sont à la fois un héritage spirituel, mais aussi... le fait qu'ils ont des difficultés tous les jours et qu'ils ne peuvent pas faire des projections, eh ben fait qu'en fait, quand tu voyages avec eux, tu t'aperçois que des choses se produisent en permanence. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait 1000 plans pour mes films. Il faut que si j'arrive pas à voir cette séquence, il faut que je la remplace par ça. J'ai 10 séquences dans ma tête pour être sûre de ramener de la matière. Et c'est toujours une séquence que j'ai jamais imaginée qui va se produire. Parce que aussi, quand je suis avec les aborigènes, ben, je suis dans le move du moment présent. Et quand je mets ma caméra sur mes yeux, eh ben là, je suis aussi centrée, quoi. Tu vois, il n'y a plus de projection. Je suis dans la vie, dans le moment. Et donc, paf, les choses se manifestent.
Passage du livre où tu dis, on est dans sa propre création. Être sa propre création, mais sans projeter, en étant simplement là.
Bon, en fait, il faut quand même... Enfin, on projette. Moi, quand je manifeste un truc, c'est pas avec ma tête que je l'imagine. C'est d'un coup, il y a une envie, mais dans mon cœur, tu vois, c'est à ce niveau-là. Et j'y pense, je fais une action, ou deux, pour que ça se réalise, mais je vais pas mettre un poids dessus, je vais pas être obsessionnelle, il faut absolument que ça marche, machin truc. Hop, je pense, je fais une, deux actions, puis après je passe à autre chose, et hop, ça se produit. Et en fait, quand je suis dans... Parce que je suis aussi, hein, des fois, dans la force, et je veux... Bon, moins maintenant, mais à l'époque... Alors ça finissait pas se réaliser, mais que quand je lâchais en fait. Mais tant que je forçais, ça marchait pas. Donc il y a aussi une façon d'utiliser ce pouvoir qui est autour de nous, cette énergie, ce mangan là. Il y a une façon de l'utiliser pour manifester. Et donc oui, on est créateur. Nos pensées, suivant les émotions, et si elles sont chargées d'émotions, nos pensées se matérialisent quoi. Enfin, il y a un moment donné. Ça prend une forme vivante. Hein.
Ce pays t'a amené aussi à te positionner, enfin à te questionner dans ta féminité. Le pays des aborigènes, est-ce que c'est un pays quand même féminin ?
C'est une vraie question, parce que moi, j'arrive pas à me voir. Je me vois autant féminine que masculine. Je pense que j'ai vraiment les deux pôles. D'autant que j'ai été invitée par des hommes, en plus. Alors là, c'est transgresser tous les codes. C'est des hommes qui m'ont invitée sur une terre initiatique d'hommes. Les femmes m'ont reçue, mais elles m'ont pas invitée sur leur terre. Donc... je sais pas, je dois avoir un passé d'homme, donc je dois dégager un truc qui rassure les hommes, je sais pas, bizarre. Et donc là, je me sens aussi très femme, quoi. Je me sens les deux, en fait. Ça m'a ramenée à qui j'étais, plutôt, à faire le tri entre ce qui était ramené par ma société, qui était des conditionnements, ça m'a plutôt aidée à faire le tri pour être au plus près de mon authenticité. Donc j'ai lâché des codes, j'ai lâché des croyances, j'ai lâché pas tout encore, hein, y a encore du chemin, hein, mais bon, j'ai lâché des peurs, il y en a encore beaucoup, mais j'ai lâché tellement de choses et aujourd'hui ben je me sens juste moi quoi. Alors voilà, avec encore des bagages, hein, mais ça m'a ramené à la terre, à l'essentiel, mon corps, mon identité, parce que voilà, il y avait certainement un problème identitaire aussi, donc. Là-bas, quand tu vois comment ils sont connectés à leur famille et que la famille passe avant tout, ils peuvent te planter, mais ils n'en ont rien à foutre que tu arrives avec ta caméra, que tu as pris rendez-vous, que tu as perdu 7000 dollars dans ton... T'as mis 7000 dollars pour arriver. Ils peuvent te planter du jour au lendemain un film. Tu vois, ils t'ont dit oui et puis ils te lâchent. Mais ça, moi, je comprends complètement. C'est largement moins important que leur famille, tu vois. Si d'un coup, une tante ou un oncle qui a besoin d'aide et que c'est hyper urgent, ils te lâchent et ils te préviennent pas. Et donc ça aussi, ça a été marrant de faire face à ça, quoi. Nous, on est là, on a nos codes. Bon, si je te lâche, j'abandonne un rendez-vous, au moins je te fais un mail, je te préviens, quoi. Là-bas, non, on te prévient pas. C'est comme ça, tu prends les choses comme elles sont et puis c'est tout. Et ça, waouh, ça j'ai mis du temps, hein, avant de comprendre que c'était pas contre moi qu'on me répondait pas. C'est juste que c'est pas la même vision, c'est pas la même vie. Et je vois plein de gens maintenant qui galèrent en Australie aussi parce que qui essaie, ouais, mais on me répond pas et tout. Et je suis là, je vois, laisse tomber. C'est comme ça, c'est pas la même vision du monde, c'est pas le même rythme, c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a des difficultés là-bas que tu n'affrontes pas, toi, dans ta vie quotidienne. Et il faut être là-bas pour comprendre que, voilà, l'énergie, elle est prise ailleurs, chez ces peuples-là. Et ton rendez-vous, ton timing, ils en ont rien à faire et ils ont bien raison.
T'as jamais eu envie de t'installer définitivement là-bas ?
Oh là là, la question, elle a couru pendant tellement d'années. J'étais entre deux chaises pendant des années, des années, des années. Pff, ça m'a bouffé. J'ai jamais réussi à prendre une décision. Et bon, bah là, le confinement a fait que bah voilà, maintenant, je suis là. Je suis en France. Donc, j'ai pu me la poser. Et puis, en même temps, c'est compliqué de vivre en Australie parce qu'il voilà, il faut avoir une carte de résident pour travailler. Ça veut dire recommencer à zéro. Tu vois, se refaire un réseau, et là je me dis j'ai tout ici, donc j'aime autant partir 3 mois par an quand je le peux, et rester ici, voilà. C'est... Bon, si je peux revoyager un jour, hein, ce qui n'est pas encore gagné vu ce qui se passe en ce moment, mais bon bah voilà, la décision elle a été prise un peu contre ma volonté, mais elle est bien.
Tu as deux documentaires en attente ?
J'ai deux documentaires en développement, oui, toujours avec... l'Australie, un sur les enfants volés d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un problème là-bas avec les enlèvements d'enfants, les services sociaux, sujet assez difficile pour moi. Mais bon, je me suis dit, vas-y, lance-toi, et puis si ça se fait, c'est que ça doit se faire.
Les services sociaux ont toujours plein pouvoir sur la famille ? Ils sont au-dessus de la famille ?
Ben, c'est un peu difficile, c'est que... En fait, c'est un système qui est installé depuis la colonisation. C'est donc c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que on peut enlever un enfant sur soupçon de négligence. Et les critères de négligence sont pas les mêmes chez les aborigènes et chez les Australiens. Donc moi, j'ai une amie aborigène. Elle est blanche, hein, physiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage. Mais elle a grandi en contexte aborigène. Elle a une culture aborigène. Et elle s'est fait enlever son enfant parce que c'était sale chez elle et qu'elle avait un attachement malsain à son enfant. C'est qu'un exemple hein, parmi des milliers. Donc, et c'est ça.
En 2021, on est d'accord.
Ah oui, on est d'accord. Bah, regarde le film Les enfants volés d'Angleterre, ça se passe en Angleterre. Donc voilà, c'est pareil en Australie. Pour d'autres raisons, c'est pas les mêmes raisons. Là-bas, en Australie, il y a un problème de colonisation qui n'est toujours pas assumé. Il y a un problème de peur de l'autre, hein, de racisme. De d'incompréhension des codes et de la vision aborigène, parce qu'elle est très compliquée. C'est très, très compliqué à comprendre. Donc, du coup, les enfants sont aussi jugés sur leur santé mentale parce qu'ils n'ont pas les mêmes réactions que les Blancs. Ils n'ont pas la question de leur individualité, de leur identité. Parce que c'est pas la question dans une famille aborigène, dans une organisation aborigène. C'est la famille et l'organisation qui passent avant. Et l'identité se fait à travers les cérémonies. Donc, on va juger un enfant sur sa santé mentale et on va, leur donner un traitement alors qu'ils ne sont pas malades mentaux. Ce n'est pas des malades mentaux. Enfin, il y a vraiment un gros, gros problème au niveau des systèmes de santé là-bas. Mais c'est une société très jeune, hein, elle a 233 ans, donc ça va bouger, quoi, j'espère, dans les années qui vont venir.
Est-ce que ton amie a pu récupérer son enfant ou c'est en cours ?
Non, elle a une visite par mois d'une heure. Non, c'est des drames. Hein. Faut pas m'appuyer sur le bouton parce que je vais pleurer, mais c'est des drames quotidiens. Hein. Une autre personne que j'ai interviewée là, justement pour mon film, pareil, sa petite fille s'est fait mal avec la portière de la voiture, elle l'emmène à l'hôpital, on lui enlève. Soupçon de maltraitance. Alors qu'ils sont plus blancs que toi. Mais on sait qu'ils sont aborigènes.
Ils en font quoi de ces enfants ? Ils les placent en foyer ?
Oui, ils vont de foyer en foyer, ils sont trimballés à droite à gauche. En plus, alors, je te parle même pas des attouchements et compagnie et des violences. En fait, il y a aussi un problème au niveau de la justice là-bas. Alors, quand un travailleur social fait un témoignage, on ne doit pas porter la preuve. Voilà, il n'y a pas de loi qui stipule qu'on doit prouver que c'est vrai. Si sa parole fait force de loi. Et donc, il y a énormément de racisme. Et donc, tu peux imaginer le nombre d'enfants qui sont enlevés tous les jours pour rien. J'ai une femme aborigène, là, qui est magnifique, qui a réussi, elle, donc qui se fait aussi enlever ses enfants, bon, bref, qui les a récupérés après des années. Et là, elle s'est mise en quête depuis des années d'aider les femmes dans le système juridique pour qu'elles comprennent, parce qu'il n'y a pas d'éducation non plus là-dedans, il y a un retard énorme, et donc elle va témoigner pour elle y va avec son argent de poche, et elle a réussi en je ne sais plus combien d'années à faire rentrer chez eux 90 enfants. Elle est infatigable, je ne sais pas comment elle fait.
Je voulais qu'on revienne à l'écriture de ce livre. Pour toi, ça a été évident d'écrire un livre, parce que tu passes plutôt par le visuel, t'en as eu besoin ?
Ben, j'ai toujours eu ce sentiment que j'allais écrire un livre, mais depuis des années, mais j'arrivais pas à trouver la légitimité pour faire ça, ni l'énergie, enfin je sais pas, ça j'étais pas prête. Et quand le confinement est tombé, d'un coup tout s'est débloqué. Et pareil, comme quand je fais un film, il y a une espèce de force qui arrive et qui rentre en moi et qui me fait écrire. Enfin, je suis pas une créative qui se met tous les jours devant son ordinateur. C'est d'un coup, bam, c'est maintenant. Donc, voilà, il est sorti et j'ai encore du mal à y croire. D'ailleurs, je trouve ça trop bizarre d'avoir un livre, en plus avec mon visage sur la couverture et surtout chez ma édition. Enfin, jamais j'aurais imaginé qu'il allait marcher. Mais comme tout ce que je fais, hein, chaque fois que je fais un truc, j'y vais à fond. Et je doute toujours du retour qu'il va y avoir. Je doute toujours et je suis toujours surprise. Mais tiens, mais ça marche, c'est trop bizarre.
Il est vraiment passionnant. Je trouve que ça se lit vite. On a envie d'en savoir encore plus. On n'arrive pas à le lâcher. Donc moi, je sais que j'ai adoré. Tu vois, je l'ai surligné partout. Et puis cette histoire qui te prend en trip aussi. Bon, l'amour, c'est un petit peu mon point faible, hein, mon talon d'Achille. Mais justement, cette histoire que tu lis à l'Australie avec Darren, qui, cet homme d'un autre monde, mais en fait qui est comme nous, quoi. Malgré tout, enfin, malgré, comme tu dis, les différences sur lesquelles vous êtes un peu détruits tous les deux, il y a quand même cet amour et cette façon d'être qui est complètement humaine.
Bah oui, bah c'est marrant, tu dis cet homme d'un autre monde, parce qu'en fait, quand il est venu en France, il avait tellement peur. Et c'est une amie commune qui lui a dit, mais tu sais, hein, tu vas arriver là-bas, tu vas t'affaire savoir qu'on est tous pareils. Et c'est vrai qu'on est tous pareils, il a les mêmes peurs, tu vois. Voilà, c'est juste la façon de vivre et d'être au monde qui est différente. Et on a des leçons à prendre de toute façon des deux côtés. Voilà, c'est...
Il était resté combien de temps en France ?
Il est resté 3 mois, 2 mois et demi. Mais bon, dès 10 jours, il a fait une crise d'angoisse. Alors, je me suis demandé comment j'allais tenir les deux mois suivants.
Et finalement, ça a tenu. Ça s'est bien passé.
Oui, bah, ouais, plus ou moins. Hein, ça a tenu. Y a pas le choix, quoi. Hein. Mais bon, c'était compliqué dans mon petit appartement à Montmartre 3. Moi, j'avais pas conscience à cette époque. Je me rendais pas compte qu'il allait. Mais je comprends en même temps. Il arrive d'un pays hyper vaste où il voyage, il bouge tout le temps et il se retrouve dans une boîte sombre à Paris avec des immeubles comme horizon. Ah, mais le pauvre. Bon, après, il s'est ébahi devant, tu vois, le Louvre, Jardin des Tuileries. Il y a eu des choses sur lesquelles il a halluciné parce qu'ils n'ont pas ce paysage ancien là-bas. Tout est neuf en Australie. L'histoire est importante. Enfin, voilà. Darren, je sais que tout ce qui est ancien, ça le touche. Donc voilà, je l'ai emmené dans des marchés où on pouvait trouver des anciens, des espèces de brocantes, des machins pour le connecter à l'histoire, quoi. Ou dans la nature, je l'ai emmené dans la Drôme, enfin. Puis à un moment, je l'ai envoyé en train à Amsterdam. Il avait un ami là-bas aussi. Mais il a eu peur aussi de prendre le TGV tout seul. C'était marrant.
Ça allait trop vite pour lui.
Mais il avait peur parce qu'il avait peur de voyager tout seul. Hein. Il n'était jamais sorti de l'Australie. Et moi, je fais traverser le monde. Et après, je le fous dans un TGV pour encore un autre pays en Europe sans moi parce que je voulais pas partir avec lui. Et là, il a eu un moment où il était super content. Il est arrivé c'était Amsterdam. Et il a vu la police, parce qu'il se fait toujours arrêter, lui, sur délit de faciès en Australie. Et là, il a eu super peur. Et quand ils lui ont demandé son passeport, ils ont dit « Ah, Australien, ok !» Et ils l'ont laissé passer. Et c'est la première fois qu'il n'était pas jugé pour son physique d'aborigène. Et donc ça, pour moi, c'était le cadeau. Quand il me racontait ça, il était tellement content, ça l'a marqué. Ce qui l'a marqué aussi, c'était les enfants, les Roms dans la rue à Paris qui font la manche avec les enfants. Alors ça, il a pas supporté. Ah, il était... Alors là, ça l'a traumatisé, ça. Voilà, toujours cette question de l'enfance utilisée, l'enfance enlevée, utilisée, ouais. Ça, c'est des sujets qu'on a en commun à l'intérieur de nous.
Et oui, ce que tu racontes dans le livre, c'est qu'à un moment, il se retrouve enfermé en prison, parce que c'est dans le Queensland, c'est ça, où on lui reproche d'avoir... enfin, c'était quelque chose de complètement ridicule. Il se retrouve une nuit en prison, toi t'assistes au procès, et lui, il s'en sort vainqueur parce que, en fait, il a énormément d'humour, c'est un orateur né.
Ouais, oui, non, j'ai eu vraiment ça, il m'a fait traverser des moments durs. Hein. Bon, c'était une nuit de garde à vue, mais effectivement, l'Australie est un pays fédéral, donc d'un État à l'autre, suivant ce qu'il a fait il y a 10 ans en arrière dans un État, bon, lui, il a oublié, mais le gouvernement, lui, il a pas oublié. Et en fait, on est arrivé dans un parc parce qu'on devait rejoindre quelqu'un qu'on voulait filmer. On était parti de Tasmanie et pour retrouver cette personne, parce qu'elle n'était pas venue en Tasmanie, et on est parti dans le Queensland. Et on arrive dans le Queensland, on a rendez-vous dans un parc. On est les deux premiers qui arrivons dans le parc. Et là, t'as une voiture de police qui s'arrête devant nous et qui regarde sa tronche et qui lui demande ses papiers. Et lui, il donne sa carte de crédit alors qu'il a pas une thune. Et ils lui disent merci, ils relèvent son nom. Mais je ne sais plus, 15 minutes après, ils arrivent avec un camion, 8 policiers l'embarquent, menottes et tout. Et moi, je filme toute la scène, sans micro, j'ai oublié le micro, mais bon, on s'en fout, j'ai les images. J'étais tellement énervée. Et les portes se ferment, et là, je me retrouve toute seule. Bon, avec une bande qui commence à arriver, avec qui on avait rendez-vous, des gens que je ne connaissais pas. Mais bon, quelqu'un m'a pris sous son aile et m'a fait dormir la nuit. Et le lendemain, il devait passer en comparution immédiate. Et donc, je le retrouve dans une salle de procès, les cheveux hirsutes. Tu sais, derrière la vitre, tu sais, le banc des gros criminels, là, avec une cour pleine. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et l'avocate, la juge énumère les chefs d'inculpation. Et en fait, il a fait du tapage nocturne dans une rue de Brisbane, 13 ans en arrière. Et là, t'as tous les avocates qui se marrent. Et elle est un peu outrée. Elle dit, vous n'auriez pas dû passer la nuit en garde à vue pour ça. Mais tu vois, la police là-bas déteste les aborigènes. Enfin, la police, je fais une généralité, mais beaucoup. Il y a beaucoup de morts en garde à vue aborigènes, énormément, de jeunes même. Donc ça, c'est aussi un vrai problème là-bas. Et donc, voilà, elle lui dit, voilà, 100 dollars d'amende. Et c'est tout, on n'en parle plus, dossier clos, quoi. Et donc, il sort. Et il s'en fout, il ne paiera pas l'amende, parce qu'il sait qu'il change de territoire et qu'on ne le retrouvera pas encore une fois. Voilà l'histoire.
C'est excellent, enfin c'est dramatique tout en étant cocasse quoi en fait, c'est là où on voit le ridicule des situations. Merci pour ce moment en terre aborigène. En tout cas, merci d'être leur porte-parole d'une autre manière et d'avoir écrit ce livre, parce que tu te livres aussi beaucoup. Et c'est intéressant de voir toute cette histoire, comment elle te poursuit encore et la femme que tu es devenue maintenant grâce à tout ça. Et puis, j'espère que tu vas avoir des fonds pour ces enfants volés, parce que je pense que, comme tu dis, c'est un sujet vraiment primordial à l'heure actuelle pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais dire en mot de la fin, si tu as quelque chose pour conclure?
Ah, il faut croire en ses rêves, c'est tout.
Et partir la nuit dans ses rêves, et ne pas avoir peur de partir aussi.
Ne pas avoir peur de partir et de les réaliser surtout, quoi. Voilà. Et même s'ils peuvent faire peur, ça fait grandir. Voilà, donc rêver et vivre.
Merci. Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.